Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
La colère du monde agricole n'est pas apaisée, elle s'étale encore dans la presse ce matin.
Gabriel Attal a reçu les représentants des agriculteurs, mais sa parole n'a pas suffi face à l'ampleur de la protestation. Ce qui est compliqué, c'est le caractère protéiforme de leurs revendications, dit un conseiller du Premier ministre dans Les Échos. Le journal écrit que la pression s'accentue sur le gouvernement et que les syndicats promettent des actions toute la semaine en attendant des décisions concrètes. Agir en colère, ce qu'il demande, titre Ouest-France, l'Est républicain, l'Ardennais, Corse matin, titre eux aussi sur le ras-le-bol qui gagne l'ensemble des régions. Et le télégramme de Brest résume, la terre gronde, la mer grogne, car les pêcheurs, interdits de pêche dans le golfe de Gascogne pour un mois, sont eux aussi en colère.
Et dans tous ces articles, il est à nouveau beaucoup question de toutes ces normes, parfois contradictoires, qui compliquent le travail des agriculteurs.
Être agriculteur en France, c'est lire Kafka sur son tracteur, écrit joliment l'Opinion, qui décrit les dégâts de l'overdose de normes, directives, lois, règles, décrets, régissent tous les actes du quotidien des fermes, dont le respect se traduit par d'incessantes entraves et l'irrespect par des tracas administratifs, des sanctions financières, des procès. Tout cela génère une paperasse monstre. Les agriculteurs y consacrent 20% de leur temps. Parfois, je me dis que ça ne vaut pas le coup, admet dans Le Parisien Stéphane Donquel, éleveur et céréalier en Seine-Saint-Denis pour 1200 euros par mois. Il faut justifier tous nos actes, documents à l'appui, du soin d'une vache au traitement d'une parcelle. On nous dit que nos vaches polluent trop, qu'on est irresponsable d'utiliser des traitements. Mais quelle autre solution ?
Et François Asselin, tout à l'heure, le président de la CPME, dénonçait l'acharnement des risques rien face aux risques tout, les agriculteurs et les entrepreneurs, les risques rien étant les éditeurs de normes et de réglementations. En Allemagne, c'est un autre sujet qui suscite de grandes manifestations, c'est la menace de l'extrême droite.
Plus d'un million d'Allemands ont défilé le week-end dernier dans les rues de Berlin et des grandes villes allemandes pour dénoncer la xénophobie du parti d'extrême droite, l'AfD, qui fait tout de même 20% des voix en Allemagne et qui a 78 députés au Bundestag. Le Monde rappelle que le 11 janvier, le directeur du renseignement intérieur allemand s'alarmait à la télévision de la passivité de la société face à l'extrémisme. Depuis, un site d'investigation a révélé la présence de cadres de l'AfD dans une réunion secrète de néo-nazis dont l'ordre du jour était la remigration, c'est-à-dire la déportation par la force de millions d'immigrés vers un pays d'Afrique, écrit Le Point. L'hebdomadaire indique que cette révélation a relancé le débat sur une éventuelle interdiction du parti d'extrême droite et cite l'éditorial de la Süddeutsche Zeitung, quotidien libéral allemand. L'Allemagne a toujours dû lutter contre l'extrême droite. Aujourd'hui, celle-ci est devenue une force capable de rassembler une majorité. Il est inconcevable que ce soit considéré comme normal.
Après cette vraie alerte politique en Allemagne, les fausses alertes à la bombe en France, un adolescent a été arrêté la semaine dernière pour en avoir lancé plusieurs centaines.
Oui, le suspect est un gamin de 13 ans résidant à Laval. En envoyant par mail des fausses alertes, il a réussi, raconte Ouest-France, à paralyser le trafic ferroviaire, à faire évacuer des cinémas et même des universités à Rennes et dans plusieurs villes de Bretagne. Une fois arrêté, il a dit à la police avoir agi par jeu, en dehors de tout mobile politique ou religieux. Ouest-France cite la responsable de l'enquête qui décrit un gamin ayant des connaissances approfondie en informatique qui programmait ses mails pour qu'ils partent à des jours et des horaires précis en utilisant des adresses à l'étranger. Mais il s'est trahi à cause d'une faute de conjugaison qui se répétait étrangement dans ses messages et qui a mis les enquêteurs sur la piste d'un seul auteur. Morale de l'histoire, savoir manier l'ordinateur ne dispense pas de bien parler le français.
Quand on dit que le niveau baisse, tout à fait autre chose, le Figaro confirme une impression assez répandue. Les fonctionnaires travaillent moins que les salariés du secteur privé.
Le journal prolonge la controverse déclenchée malgré elle par Amélie Oudéa-Castéra à propos de l'absentéisme des profs pour revenir sur la question du temps de travail effectif dans la fonction publique. Les salariés du privé et du public travaillent autant en moyenne hebdomadaire, c'est-à-dire à peu près 39 heures, mais les durées annuelles divergent. En 2022, c'était 1699 heures dans le privé et 1606 heures dans la fonction publique. Ça fait une grosse différence. Selon le Figaro, l'explication tient au plus grand nombre de congés payés et de RTT, 38 jours pour les agents publics, 26 jours en moyenne dans le privé. Et aussi, c'est un fait, à l'absentéisme, plus fort dans l'administration que dans les entreprises. En outre, dans la fonction publique d'État et dans la fonction publique territoriale, un grand nombre d'agents travaillent moins que la durée prévue par la loi. Mais à l'échelle d'une vie, précise le Figaro, le rapport s'inverse, car les fonctionnaires travaillent plus longtemps que les salariés.
Il y a toujours de bonnes raisons de modérer les constats de départ ensuite. Lui ne travaille plus et ne se montre plus. Il est en retraite. C'est Alain Delon. Alors que ses enfants se déchirent publiquement, le Parisien est allé enquêter dans le village du Loiret où habite Alain Delon.
À Douchy, sur les traces du samouraï, annonce en une le Parisien, avec une photo de l'acteur jouant avec son chien dans le parc de la Brûlerie, sa propriété. En fait, la photo date de 2021 et Delon est aujourd'hui invisible. On ne sait pas ce qui se passe chez eux quand la porte est fermée, disent les gens du village. Tant que sa dame de compagnie était là, elle le sortait beaucoup, il marchait, parlait. Du jour où elle a été virée, on ne l'a plus vue. Elle, c'est Iromi Rolin, écartée par les enfants Delon l'été dernier, à Douchy. Tout le monde la croisait depuis 20 ou 30 ans, écrit l'envoyé spécial du Parisien. À présent, elle ne se montre plus chez la fleuriste pour acheter des roses avec Alain Delon, ni au volant de sa Twingo Bordeaux qu'elle conduisait dans le village avec l'acteur assis à sa droite. Et sa valse autour de Delon, dit le Parisien, les gardes du corps recrutés par sa fille ont été remplacés par d'autres choisis par ses fils.
Qu'apprend-on sur l'état de santé d'Alain Delon qui est au cœur de toute l'affaire ?
Eh bien, rien ou presque, puisque l'acteur n'a plus de contact avec les villageois. Seul son deuxième fils, Alain Fabien, apparaît parfois. Toujours très gentil, il fait tellement jeune et un peu perdu, dit un habitant. Anouchka, elle, est jugée dure et imbue d'elle-même. Le projectionniste de Delon, qui venait à la Brûlerie quand l'acteur voulait revoir ses films préférés, observe les hélicoptères qui se posent sur le domaine. Si l'appareil est blanc, dit-il, c'est Alain. Si c'est jaune, c'est l'hôpital. Les alentours ressemblent au cercle rouge de Melville, écrit le Parisien. Une voiture sur une route déserte au milieu des champs et une intrigante propriété de Châtelain. L'article ne précise pas que le film, l'un des chefs-d'œuvre de Delon, s'achevait par un carnage.
J'espère que la fin sera plus paisible pour tous. Merci à Vega Tegno.
À demain
pour la revue de presse. Dans un instant, nos esprits libres, Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier de chez Christophe Barbier. Radio Classique.